perkeleen tontot!
Le vendredi, le métal fait son show sur Bike FM. Salut à tous, bienvenue dans l'émission Check Me Load, l'émission métal, et bien qui chaque semaine vous propose un petit tour d'horizon des sorties du moment. Donc là, on est au mois de septembre, à une époque, on va dire, post-confinement en gros, et les sorties sont encore très très peu nombreuses. Il y a de belles choses qui se profilent pour les semaines à venir. Aujourd'hui c'est assez calme et du coup ça va nous permettre de revenir sur quelques sorties qui sont arrivées durant l'été, et puis aujourd'hui également le retour des interviews avec un groupe qui s'appelle Trank, un groupe français qui va sortir la semaine prochaine le 15 septembre son premier album. Et ce groupe là il a été déjà adoubé par Deep Purple, par Anthrax, par par Papa Roach, dont il a effectué les premières parties. Trank, c'est un groupe à suivre. L'album s'appelle The Ropes. On en parlera tout à l'heure avec un des membres du groupe. C'est le chanteur qui s'appelle Michel, qui sera en notre compagnie et qui répondra à toutes mes questions sur le parcours de Trank, et puis également sur ce premier album qui va arriver la semaine prochaine. Mais d'ici là, ça ce sera dans une petite demi-heure. D'ici là, on va s'intéresser à quelques sorties. Alors des sorties principalement qui ont eu lieu en juillet et août. Et ma première sélection va nous emmener au cœur d'un live symphonique. Alors là, vous allez croire que je me répète, hein, puisque la semaine dernière, on a parlé du live symphonique de Metallica. Mais non, je vous la refais pas en deuxième semaine. On passe à un autre live symphonique qui est sorti, lui, au mois de juillet. C'est celui de Septic Flesh. C'était le 31 juillet et le disque s'appelle Infernus Symphonica 2020. Donc, album live un peu à la SCM de Metallica. Sauf que là, on est vraiment sur du death metal. Septic Flesh, c'est un groupe grec, hein, puisqu'il est originaire d'Athènes. Il existe depuis 30 ans, depuis 90, et il a été créé sous l'impulsion du chanteur-guitariste qui s'appelle Sotiris Vaienas. Il y avait également à cette époque-là le chanteur-bassiste Spyros Antoniou et le guitariste Christos Antonios. On peut dire que Septic Flesh, c'est un des fleurons de la scène métal grecque. Donc, du death metal symphonique. Alors, au départ, on est sur un death qui est très traditionnel, et puis le groupe va vite évoluer vers un métal extrême plus avant-gardiste, plus progressif, pour devenir cette formation majeure de cette scène death mélodique progressive aussi, celle qu'on connaît aujourd'hui. Désormais, Septic Flesh est quand même considéré comme étant un des maîtres du death metal symphonique et cinématique. Alors depuis ses débuts il y a 30 ans, le combo grec a sorti 10 albums studio. Parmi ses œuvres majeures, je vais vous en citer quelques-unes. On va notamment retenir Ophidian Will en 97, Sumerian Demons en 2003 ou encore The Great Mass en 2011, en soulignant quand même, malgré tout, que la discographie de Septic Flesh, elle est quand même plutôt irréprochable, et la quasi-totalité de ses disques sont de très belle qualité, comme en témoignent d'ailleurs ces deux dernières productions, puisqu'il y a eu le titanesque Titan en 2014 et puis le gigantesque Codex Omega en 2017. Alors lui qui est aussi épique que flamboyant grâce à la participation entre autres de l'Orchestre Philharmonique de Prague. Et si le travail en studio fut pour cet album pharaonique, et ben la tournée qui a suivi ne le fut pas moins, comme en témoigne ce live qui est Infernus Symphonica 2020, qui a été enregistré en février 2019 à Mexico, c'était au Metropolitan Theater. Alors ce soir-là, le groupe a joué devant une salle bondée. Faut dire qu'en plus du cadre exceptionnel qu'offre le lieu, bah le spectacle valait quand même le déplacement, puisque Septic Flesh s'est produit entouré de pas moins de 100 artistes qui sont issus alors soit du Symphonic Experience Orchestra, soit du chœur En Harmonica Vocalis, soit du chœur d'enfants et de jeunes de l'Université Nationale de Mexico. Donc une sacrée machinerie dont le résultat est plutôt époustouflant. Les 15 morceaux issus de ce live viennent d'albums qui sont parus entre 2008 et 2017, et on peut dire que ici ils prennent une dimension plutôt inédite, une dimension qui confère à la prestation du groupe une puissance quand même assez inégalée. Avec Infernus Symphonica, je pense que Septic Flesh emboîte quasiment le pas à Metallica. Alors sans le côté super production américaine, mais bon, ça y est, hein, c'est définitif, nos Grecs sont incontestablement les maîtres en matière de death symphonique. Allez, on écoute tout de suite un extrait de cet album live avec un morceau qui s'appelle The Vampire from Nazareth, et vous allez entendre en début d'émission, en début de morceau, les chœurs d'enfants. Vous allez voir, c'est assez impressionnant. Voici tout de suite Septic Flesh.
Ladies and gentlemen, the next song.
Voici donc Septic Flesh en version live et en version symphonique, hein, extrait de ce tout nouveau live qui est paru fin juillet, qui s'appelle Infernus Symphonica, qui existe en version audio, il y a une version vidéo aussi, si ça vous intéresse. Après, les vidéos, vous pouvez aussi aller les voir sur YouTube, parce que si elles n'y sont pas toutes, elles y sont au moins presque toutes, hein. J'en ai regardé un bon paquet, et c'est vrai que c'est assez impressionnant à voir et à entendre, donc voilà, si vous êtes amateur de death metal, si vous aimez tout ce qui est un peu symphonique, je pense que cet album devrait vous plaire et pourrait rejoindre vos playlists. On va rester dans des sons un peu brutus, puisqu'on va rester dans du death moins symphonique. Ce coup-là, on va s'intéresser à un groupe français qui a sorti le 21 août un nouvel album. Ce groupe, eh bien, ce sont des pionniers du genre, c'est Merciless, et l'album s'appelle The Mother of All Plagues. Alors Merciless, c'est un groupe que j'avais pu interviewer à l'occasion de leur sortie précédente en 2016, et voilà, ça avait été un moment vraiment extrêmement sympathique, donc ça me fait très plaisir de les retrouver avec ce nouvel opus. C'est un groupe qui a une belle carrière, hein, puisque ça commence à Mulhouse en 1987, il est créé sous l'impulsion entre autres du chanteur-guitariste Max Otero, qui demeure à ce jour l'unique membre d'origine encore présent. Actuellement on en a... Oui, parce qu'en fait, il y a quand même eu le guitariste qui s'appelle Stéphane Viard, qui était un autre membre fondateur, qui avait participé à la reformation de Merciless en 2011, mais lui, il a quitté le groupe en 2013. Donc voilà, il est accompagné d'un line-up assez jeune, Max Otero, enfin du moins assez jeune en termes d'existence au sein du groupe. Donc... Merciless, c'est du death metal. C'est un groupe qui est considéré comme pionnier de ce death à la française, même précurseur de la scène metal hexagonale, comme a pu l'être l'Outblast à la même époque. En 90, Merciless va sortir un premier EP qui s'appelle Vomiting Nausea, qui va lui permettre de se tailler une belle réputation. Et pour son premier album, Abject Offering, en 92, le combo va même s'offrir les services de Colin Richardson à la production. Alors Colin Richardson, c'est un monsieur qui a un CV à faire pâlir. Il a travaillé avec les plus grands groupes internationaux. C'est un Américain, hein, donc voilà, il y a les moyens qui vont derrière. Le disque va recevoir un appui extrêmement important de la presse européenne, et Merciless va même attirer l'attention de plusieurs labels. Ce sera finalement Century Media qui va remporter la partie, qui va sortir l'album Colored Funeral, ça c'est en 93, un album qui va être marqué par des compos plus intenses, des textes plus soignés, et le combo va nourrir une ambition qui est celle d'une carrière internationale. Ils vont pas s'en cacher, ils vont même ressentir le besoin de faire évoluer leur musique avec l'intégration d'un clavier. Alors ce résultat, on va le découvrir avec l'album Cold qui sort en 96, mais Merciless va être extrêmement insatisfait par le travail de promo qui va être effectué par son nouveau label, et ils vont tout simplement décider de retirer le disque de la vente. Alors on pourra le découvrir quand même un peu plus tard en 99, puisqu'il va être réédité quelques mois avant la parution de l'album suivant qui s'appelle Sure to be Pure. Une distribution qui va être cette fois à la hauteur des espérances du groupe, mais c'est les ventes qui vont être décevantes. Donc voilà, ça va être un nouvel échec finalement pour Merciless, qui va décider de se séparer en 2000. Donc le groupe, il se reforme en 2011, ils sortent l'album Unholy Black Splendor, et puis surtout en 2016, ils vont sortir l'excellent Pathetic Divinity, qui marque cette fois le grand retour du combo. Et voilà, ça c'était vraiment l'album qui avait refait parler de Merciless, qui l'avait remis sur le devant de la scène. Un retour en grâce que rien ne semble pouvoir désormais arrêter, hein, puisque ce Mother of All Plagues est une sublime réussite. Alors il a un niveau de brutalité qui dépasse son prédécesseur. Là, ça nous ramène presque au début du groupe, à l'époque presque de Abject Offering, qui est la référence absolue de la discographie du groupe. Alors, s'il y en a bien qui a rien perdu de sa rage et de sa bestialité, c'est Max Otero, hein, le chanteur, qui semble aussi à l'aise qu'un piranha dans une rivière amazonienne. Comme d'habitude, le death old school de Merciless est à ne pas mettre entre toutes les oreilles, je tiens à le souligner. Et puis par contre, alors il y a quelque chose d'un peu étrange dans cet album, c'est ce décalage entre justement ce style old school qui est totalement assumé et une production ultra moderne. Alors notamment sur les parties de batterie, une production qui est signée par quelqu'un d'incontournable, puisque c'est HK Cross qui a fait la production de cet album. HK Cross qui est très en vue en ce moment. Mais alors là, je pense que ça risque de provoquer quelques réactions chez les fans. Bon, bah voilà, ça c'est à voir. En tout cas, voici un extrait de The Mother of All Plagues avec un titre qui s'appelle All Souls Are Mine. Il est interprété en featuring avec Michel Dumas du groupe Aggressor et Anthony Derrick du groupe Catacombe. C'est tout de suite, c'est sur Bac FM.
Yeah.
Un morceau sans pitié de Merciless à l'instant sur Back FM dans l'émission Check Me Load. Un extrait du nouvel album The Mother of All Plagues qui est paru le 21 août et le titre qu'on vient d'écouter s'appelle All Souls Are Mines. Il est interprété en featuring donc avec Michel Dumas du groupe Aggressor et Anthony Deric du groupe Catacombe. Voilà pour le groupe Merciless, un de nos fleurons de la scène death hexagonale. Alors je sais pas si vous le savez, hein, mais le hard rock c'est plus seulement une affaire de mecs sévèrement burnés. Ça, c'est un constat qui est de plus en plus vrai, et heureusement, j'ai envie de dire, après que les Runaways aient ouvert la brèche à la fin des années 70 et que Girls' School, les petites sœurs de Motorhead, leur aient emboîté le pas au début des années 80, quelques groupes de hard rock 100% féminins ont su brillamment s'imposer dans cet univers quand même dominé par la testostérone, comme Vixen, L7 ou plus récemment Crucified Barbara. Et si certains machos estiment encore, malgré ça, que bah, les gonzesses, ça sait pas faire du rock'n'roll, voici pour eux les tornades suédoises de Thunder Mother, dont le nouvel album Heatwave, qui signifie canicule, est arrivé le 31 juillet dernier, jour où le thermomètre, je le précise, affichait 40 degrés à l'ombre. Donc elles ont pas fait exprès, mais le disque est vraiment tombé à point nommé. Donc les Thunder Mother, c'est un groupe qui a une dizaine d'années, hein. Il a été formé en 2009 à Stockholm. C'est la guitariste Filippa Nasil qui est à l'origine du groupe, dont le line-up a été totalement remanié en 2017. Alors actuellement, il y a toujours Nasil à la guitare, mais elle est accompagnée de Maisan Lindberg à la basse, d'Emily Johansson à la batterie et d'une frontwoman qui s'appelle Guernica Mancini. C'est un drôle de prénom, Guernica, quand même. C'est bizarre de s'appeler comme un tableau de Picasso, mais pourquoi pas. Et elle, sa petite particularité, c'est qu'elle a vécu pas mal de temps aux États-Unis où elle s'est forgée une certaine expérience artistique et musicale. Elle a travaillé avec plein de monde assez prestigieux. D'ailleurs, si le remplacement de la chanteuse Claire Cunningham par Guernica Mancini avait suscité pas mal d'inquiétudes chez les fans, eh ben aujourd'hui, tout le monde semble conquis par le talent et le charisme de cette nouvelle frontwoman, comme on va pouvoir l'entendre dans l'album que je vais diffuser. Alors les Thunder Mother, c'est un hard rock concis et sans concession. Ces filles-là, elles ont sans doute été biberonnées au son de Motorhead et d'ACDC, ça c'est incontestable. Elles revendiquent aussi parmi leurs influences Janis Joplin. Alors Janis Joplin qui se serait sévèrement énervée, hein, vous allez entendre ça. Il suffit de jeter une oreille aux quatre albums qui composent leur discographie pour s'en rendre compte. D'ailleurs, Heatwave, leur petit dernier, c'en est une preuve supplémentaire, hein. Ces quatre filles-là, elles ont le rock'n'roll dans le sang et dans la peau. Ici, il n'y a pas de fioritures, pas de détails, ça envoie direct pleine face. Avec Thunder Mother, on a trouvé les petites sœurs de Airborne, puisque comme nos Australiens survoltés, les Suédoises ont avec Heatwave de quoi faire monter sévèrement la température et enflammer les scènes du monde entier. Des petits clubs rock au plus gros festival, bah, du moins quand le Covid leur permettra. Moi du coup ce que je dis c'est vivement le retour des concerts, mais en attendant on va écouter les Thunder Mother en version studio, oui je ne dis pas de bêtises, avec un morceau qui s'appelle Driving in Style. Ça sonne presque comme une offrande au dieu Lemmy. Voici tout de suite Thunder Mother. Elles brillent comme la foudre, elles font le bruit du tonnerre. C'était les Thunder Mother sur Back FM dans l'émission Check Me Load, un extrait de Heatwave. Donc je le redis, ça se traduit Canicule, qui est sorti le 31 juillet en pleine canicule. Et ça, c'est assez drôle. Voilà, tout le monde l'a relevé en même temps. Voilà, j'ai pas grande gloire, mais bon, ça m'a fait sourire. Le morceau qu'on vient d'écouter, c'est le titre qui s'appelle Driving in Style, un morceau dans l'énergie de ce qu'a pu faire Motorhead à l'époque. Et c'est vachement bien, les Thunder Mother. C'est un groupe absolument à découvrir, à aller écouter. C'est du rock qui s'éclate, qui se prend pas la tête et qui envoie sévère tout ce qu'on aime. Allez, dans quelques minutes, on va retrouver notre invité de cette semaine. C'est un des membres du groupe Trank. Trank qui va sortir le 15 septembre son premier album qui s'appelle The Ropes. Un groupe donc qui est originaire de Haute-Savoie, pas très loin de la frontière suisse et de la ville de Genève. Un groupe qui évolue sous forme d'un quatuor qui est composé donc de Michel-André Jouveau au chant à la programmation, de Julien Bouca à la guitare, de David Spatola à la basse et de Johan Evano à la batterie. Alors le style de Trank, c'est un rock metal alternatif qui est à la fois puissant et mélodique, moderne et organique, où s'entrechoquent finalement énormément d'influences qui vont de Depeche Mode à Motorhead en passant par Muse, Deftones ou les grands noms de la scène grunge aussi, un petit peu de metalcore même, je dirais, en écoutant le disque. Voilà, il y a cette petite touche ultra actuelle qui est vraiment, qui va vraiment bien avec le reste, quoi. Et c'est un groupe qui avait été choisi pour faire des premières parties de pointure. Je l'ai évoqué tout à l'heure, mais ils ont ouvert pour Deep Purple, pour Anthrax. Donc Deep Purple, groupe mythique de hard rock, Anthrax, groupe mythique de la scène trash. D'autres groupes plus récents comme Disturbed ou Papa Roach, mais qui sont quand même des pointures de la scène US actuelle. Eh bien, ça y est, Trank est prêt maintenant à nous livrer son premier album, qui est un disque riche, au son massif et puissant, moi que j'ai vraiment adoré. C'est un de mes coups de cœur du moment et je suis vraiment ravie d'accueillir dans quelques minutes le chanteur Michel-André Jouveau pour parler du groupe et puis pour parler de The Ropes, qui s'annonce sous les meilleurs auspices. Mais juste avant, pour se mettre dans l'ambiance, on va écouter un premier extrait de The Ropes avec un morceau qui s'appelle Chrome. C'est tout de suite, c'est sur Back FM et on se retrouve d'ici quelques minutes pour l'interview.
Say on the
Le vendredi, le métal fait son show sur Bac FM. Bienvenue dans l'émission Check Me Load si vous nous rejoignez. À l'instant, c'était le titre Chrome du groupe Trank, puisqu'aujourd'hui, eh bien, on part à la découverte de l'univers rock alternatif et multifacette du combo, dont le premier album, The Ropes, va sortir le 15 septembre. Et bah, pour parler de tout ça, j'ai le plaisir d'avoir en ligne Michel, qui est le chanteur du groupe. Salut et bienvenue sur Bac FM.
Salut, merci beaucoup.
Alors, comment ça se passe cette journée de promo?
Écoute, pour le moment, il n'y a pas de blessés.
Bon, tant mieux.
Ça se passe plutôt très bien.
D'accord. Ce que je te propose pour commencer, c'est qu'on fasse un petit peu plus ample connaissance avec Trank. Du coup, ouais. Est-ce que tu peux nous faire une petite présentation, nous dire qui vous êtes, nous résumer un petit peu votre parcours jusqu'à aujourd'hui, donc à l'aube de la sortie de ce premier album?
Oh, écoute, on est des gens vraiment bien.
Aucun doute là-dessus.
On est ensemble depuis, disons, 2016.
D'accord.
Donc, on est un groupe français, on est tous les quatre français, on vient de coins différents, et on habite tous en Haute-Savoie, pas très très loin de Genève. Et on est tous des passionnés de musique depuis toujours, mais la musique jusqu'à Trank, c'était resté un truc, on va dire, qu'on pratiquait en amateur ou en semi-professionnel, parce qu'on n'avait pas trouvé de projet qui nous motive suffisamment pour investir plus de temps et plus d'énergie que ça. Moi, j'étais à l'époque de la formation du groupe, j'étais dans un groupe de reprise dans lequel j'ai tout appris niveau chant et niveau scène, qui marchait plutôt pas mal, mais qui pour plein de raisons se refusait à passer l'étape de la compo. Et je cherchais des gens qui créaient de la musique qui me permettent d'utiliser une voix de chant plus rock que celle que me permettaient mes propres compos. Quand je m'assieds et que je compose mes propres trucs en général, donc on va dire que c'est plutôt mélancolique qu'autre chose. Et je suis tombé sur Julien, le guitariste du groupe. C'est une sorte de mutant qui jouait sur cette guitare improbable. Il joue sur des guitares Manson, les mêmes que celles de Matt Bellamy, de Muse.
D'accord.
Qui avait ce style de jeu et ce style de composition qui est à la fois très mélodique et super flamboyant, très très accrocheur, avec une petite touche de noirceur quand même dans les mélodies que j'aimais beaucoup. Donc on a commencé à bosser ensemble. Et puis au bout de 2-3 démos, on s'est bien rendu compte qu'il y avait une sorte de complémentarité qui marchait vraiment bien. J'ai fait appel du coup à un batteur qui était un vieil ami, Johan, que je connaissais à côté, avec qui j'avais jamais joué, mais savait que c'était un batteur extraordinaire et qui cherchait un projet aussi. Et puis David, le bassiste, il est un peu tombé du ciel. Ça nous a pris beaucoup de temps pour trouver le bassiste qui complétait vraiment la formation, que ce soit niveau relation entre nous, niveau son et musique. Et quand on a fini par trouver David de manière assez classique par petite annonce, il y a vraiment un truc qui s'est mis en place. À la fois niveau humain et niveau son, l'identité de Trank, elle s'est vraiment forgée à ce moment-là.
C'est vrai qu'il semble y avoir une belle cohésion au sein du groupe, hein.
Écoute, ouais, ce qui se passe, c'est qu'on est tous, on a tous des goûts très éclectiques en matière de musique et assez différents les uns des autres, mais qui se complètent bien et qui se retrouvent autour de fonds en commun. David, il a amené quelque chose qui vient plus du metal 90 façon, Soundgarden ou Pearl Jam,
ouais,
ou Deftones, ou des trucs un peu plus extrêmes même, genre Slipknot, dont il est assez fan. Mais c'est surtout un fan meeting de Chris Cornell et qui a beaucoup amené de choses de cette univers-là. Johan, qui est notre batteur, il est très branché, classique rock et rock progressif. C'est lui qui m'a fait découvrir Porcupine Tree, par exemple, dont il était très fan. Julien, notre guitariste, est très très fan d'un rock alternatif assez flamboyant, assez puissant, genre Muse, Royal Blood, ou même Bring Me the Horizon. Et moi, je viens plus de, tout en ayant encore une fois des goûts assez éclectiques, j'écoute aussi beaucoup de métal, beaucoup de rock, mais je viens plus au départ d'une certaine cold wave, de Depeche Mode, de Killing Joke, de Joy Division, de choses comme ça. Et on se retrouve en fait autour de ces références-là, parce que ce qu'elles ont en commun, c'est qu'elles mélangent quelque chose qui est un peu sombre, un peu atmosphérique, un peu pervers, un peu tordu, avec de la musique qui est malgré tout puissante et qui est accrocheuse et qui rassemble les gens et qui leur donne envie de sauter en ride sur la chanson plutôt que de sauter par la fenêtre. On aime bien l'idée que notre son réconcilie ces deux aspects-là, le côté ombre et le côté lumière.
Oui, c'est vrai que moi j'ai trouvé que dans cet album, il y avait tout ça qui s'entrechoquait, hein. On est sur un univers rock metal alternatif, mais vraiment avec énormément de belles influences qui se marient très très bien. J'ai pas mal pensé à Alter Bridge aussi en vous écoutant.
Ah ben oui, on aime beaucoup. Alors ça, c'est David qui m'a fait découvrir ce groupe-là. Il est très très fan d'Alter Bridge, auquel il est venu par Guns. Au départ, un énorme fan de Guns.
Ouais.
Il a suivi le parcours de Slash et tous les gens qui ont bossé avec lui, dont évidemment Alter Bridge. Et ouais, il y a chez eux aussi, chez Alter Bridge, ce mélange entre quelque chose de très rock metal classique, voire un peu roots, avec quelque chose de beaucoup plus moderne. D'un peu électronique, donc travail du son, c'est une belle référence pour nous.
Alors, ce que j'ai aussi beaucoup aimé en écoutant The Ropes, c'est ce son, voilà, qui est à la fois, tu l'as un peu dit, hein, c'est un son qui est massif, mais qui est à la fois moderne, mais quand même organique, quoi. On sent qu'il y a de la peau, qu'il y a des tripes. Ça donne énormément d'intensité dans les morceaux, qui sont parfois tranchants, percutants, parfois plus sensibles, plus mélancoliques. C'est un album qui est vraiment taillé, en fait, pour mettre le feu en live, quoi. Et je crois d'ailleurs vous avez bossé un peu dans cette optique, hein.
Oui, complètement. Ça me fait vraiment très plaisir que tu dises ça. Sur le côté organique, en fait, tout dans le groupe est affaire de réconcilier des choses qui sont apparemment impossibles à réconcilier, mais qui, en fait, peuvent très bien marcher. Donc, on voulait, par exemple, avoir un son qui soit, bien sûr, puissant et un peu massif, parce que les chansons, elles s'y prêtent, elles ont ce côté un peu monolithique. Et c'est pour ça qu'on est allé se faire mixer par Brian Robbins, qui est le gars qui a notamment mixé pas mal d'albums pour Bring Me The Horizon. Mais on voulait malgré tout que le matériau de base il soit riche, il soit fouillé, qu'il y ait de la richesse harmonique, des trucs intéressants dans le mix, qu'il y ait de la texture, que ça soit pas juste une dalle de son un peu plate qui dure 3 minutes et qui commence à un point A qui est au même niveau que le point B où ça se termine. Et pour ça, on a travaillé, on a enregistré avec un gars qui est à la fois notre ingénieur du son pour l'enregistrement, notre producteur et puis un ami de longue date qui s'appelle Jean Baron. Et avec qui on a fait vraiment les choses en mode vieille école.
Oui.
Avec des micros bien sélectionnés comme il fallait, des préamplis à tubes. On a fait passer pratiquement toutes les pistes par une console analogique qu'il a chez lui, qui a appartenu à Queen à la fin des années 70, qui donne ce son vraiment très très riche. Toutes les parties de synthé, par exemple, on utilise pas mal d'électronique pour mettre en valeur les riffs de Julien et tout son travail de guitare avec les rythmiques de David et de Johan. Mais toutes les parties synthé, c'est moi qui m'en occupe. La plupart sont faites avec des synthés analogiques, avec des vieilles machines des années 70-80, parce que ça te donne ce grain, cette espèce de richesse. Il y a aussi du synthé virtuel et des choses plus modernes, mais la plupart du temps, j'utilise de l'analo précisément pour avoir ce côté charnel, très organique dont tu parles. Et oui, pour le live, oui, c'est des... Bien sûr, on est tous des perfectionnistes horribles, et on adore passer du temps en studio à construire un morceau, un mix, etc. Mais la vocation de cette musique-là, c'est d'être joué en live. Et les morceaux, ils ont clairement été conçus dans cette optique-là. Quand on les joue là, on les joue un petit peu différemment. Typiquement, on rallonge, tu vois, des passages que tu réarranges pour pouvoir jouer avec la foule, etc., etc. Mais c'est un album qui est fait pour être écouté chez soi, mais aussi vécu sur scène.
Oui, c'est vrai qu'il y a ces deux aspects parce que on a cette production qui elle aussi hein, est assez massive, puissante, mais c'est un album qui a tout son sens en studio et qui doit en prendre un encore différent et encore plus intense sur scène. Je pense que vous devez être un petit peu frustré en ce moment de pas pouvoir jouer quoi.
Alors, un petit peu frustré, c'est rien de le dire.
Ouais.
On peut plus. On est comme tout le monde, hein. On attend que les choses se passent pour pouvoir jouer sans risque, on va pas rendre les gens malades. Mais oui, c'est vrai que la scène nous manque énormément, d'autant que les expériences de scène qu'on a eues ont tout été incroyables.
On va en reparler dans quelques minutes. Mais juste pour rester encore quelques temps sur ce nouvel album, en ce qui concerne plus particulièrement la compo des morceaux de The Ropes, c'était quoi votre façon de travailler? C'est quoi le rôle de chacun dans Trank?
Alors, c'est assez démocratique, en fait, comme processus, parce que c'est vrai qu'on se complète bien les uns les autres.
Ouais.
En général, ce qui se passe, c'est que soit Julien, notre guitariste, soit David, notre bassiste, soit moi, amenons une idée de chanson qui peut être soit très embryonnaire, c'est-à-dire typiquement il y a un riff et une ou deux variations, soit déjà assez développée, c'est-à-dire qu'il y a un instrumental à la guitare, par exemple, ou à guitare basse, si c'est David, parce que David est notre bassiste, il joue aussi de la guitare.
D'accord.
Donc typiquement, ils vont amener une idée. Ou moi, je vais amener une idée qui va déjà être développée, sur laquelle il y aura déjà une voix, etc. Mais quand eux amènent une idée, elle est instrumentale. Et ce que je fais, c'est qu'après, je prends le début de l'idée en question et je travaille avec Johan, notre batteur, sur le fait de structurer l'idée, de la compléter et de la mettre en forme d'une façon qui commence déjà à ressembler à une chanson.
Ouais.
Quand on a le début vertébral, on le met dans la salle de répète et puis on bosse, on fait vraiment les forgerons, on travaille le truc jusqu'à ce qu'il y ait vraiment un instru qui se tienne. Et une fois que l'instru, basse, guitare, batterie et éventuellement machine, parce que sur la plupart des morceaux, on utilise de l'électronique pour accentuer la couleur ou l'atmosphère ou la richesse harmonique de tel ou tel passage des morceaux, une fois qu'on a un instru qui se tient, je le prends chez moi et je pose dessus le texte et la mélodie vocale. Donc en fait, il y a toujours une personne à l'origine du truc, à l'origine de chaque compo. Mais le développement, l'arrangement sous forme de chanson finale se fait en groupe. C'est pour ça que les influences et les goûts de tout le monde sont reflétées dans la personnalité des chansons et de l'album.
Alors, The Ropes, ça signifie les cordes. Donc, ouais. Outre le fait que ce titre vous sied extrêmement bien, du fait que vous possédez de nombreuses cordes musicales à votre arc, ou plutôt devrais-je dire à vos guitares, est-ce que tu peux nous éclairer sur le choix de ce titre qui fait résonance finalement à un thème assez présent tout au long de l'album, qui est celui de la domination et de la soumission, je crois?
C'est ça, il y a beaucoup de ça. En fait, on s'est rendu compte assez vite qu'il y avait une unité, il y avait un thème qui voyageait à travers la plupart des textes des chansons qui constituent l'album, qui est le thème des relations entre les gens.
D'accord.
Des liens qui unissent les gens, que ce soit des liens conscients ou inconscients, bénéfiques ou destructeurs, acceptés ou imposés. Il y a ce thème qui traverse un peu toutes les chansons. Et sur deux ou trois des morceaux, de manière assez explicite, le thème, il est abordé via un angle qui est soit émotionnel, soit sexuel. Il y a pas mal de références au SM, au bondage, etc., etc.
Oui.
Notamment dans cette fameuse chanson de titre, The Ropes. Et, quand on s'est rendu compte de ça, on s'est dit que, du fait que c'est cette chanson-là qui aborde le thème de manière le plus explicite, ce serait pas mal d'en faire la chanson titre de l'album. Qui plus est, il y a cette expression qu'on aime beaucoup en anglais, que show someone the ropes, montrer les cordes à quelqu'un, c'est une expression qui vient de la boxe. Et ça veut dire initier quelqu'un, faire découvrir quelque chose à quelqu'un. Ça vient du fait que quand tu commences la boxe, tu vas être dans les cordes tout le temps parce que tu vas te faire bastonner, tu vas pas savoir comment te défendre.
Ouais.
Et donc ça nous paraissait être un bon titre pour dire, le son de base de 30, tout on est, la carte de notre territoire sonore et musical, c'est ça, c'est toute cette chanson-là. D'où le titre.
D'accord, et justement, ces cordes, on les retrouve aussi sur l'univers visuel, dans l'artwork de l'album. Hein.
Oui.
Un artwork qui est signé, tout comme vos vidéos, par Alban Verneret, c'est ça?
Ouais, c'est ça.
Et d'ailleurs, j'invite nos auditeurs à aller faire un petit tour sur YouTube pour voir vos clips qui sont plutôt sympas. Ça vaut le coup d'aller y faire un petit tour. Est-ce que c'est important pour vous d'avoir un suivi et une cohérence sur l'ensemble de l'univers graphique du groupe?
Oui, très. Alban, c'est quelqu'un qu'on a rencontré précisément parce qu'on était en recherche de ça. La plupart, à titre personnel, la plupart des groupes qui m'ont vraiment influencé, que ce soit Dépêche Mode, Kraftwerk, Attack, Bowie, des gens comme ça, c'est toujours des gens qui ont considéré l'aspect visuel de leur présentation comme faisant partie intégrante de leur art et de la façon dont ils agissent, dont ils interagissent avec leur public. Donc c'était important pour nous d'avoir un point de vue clair et une expression visuelle claire de la sonorité et de l'univers du groupe. On a rencontré Alban assez près de nos débuts.
D'accord.
C'est un photographe extrêmement doué, c'est un vidéaste, c'est un réalisateur extrêmement doué. Il travaille essentiellement dans l'univers de la mode, mais il a aussi réalisé pas mal de clips pour des groupes alternatifs. C'est quelqu'un qui, de même que Yvan, notre producteur et ingé, comprend instinctivement ce qu'on essaye de faire. On a beaucoup de références, que ce soit musicales ou visuelles, en commun avec lui. Et le fait de travailler régulièrement avec lui nous donne cette espèce de cohérence, ça nous donne un aspect visuel qu'on aime beaucoup parce que le mec est très très doué. Et puis ça rend la vie beaucoup plus facile parce que ce qui se passe en général avant le début d'un clip avec lui, c'est qu'on va s'asseoir 5 minutes, on va discuter du texte de la chanson et du concept derrière la chanson. Et on va avoir de sa part une proposition de concept pratiquement tout de suite. Et une fois qu'on a aligné le concept, puisque ce sera le concept du clip, on lui cède complètement les commandes. C'est quelqu'un en qui on a une confiance aveugle.
D'accord.
Et c'est lui qui est arrivé avec cette idée qui consistait à illustrer The Ropes en faisant appel à des artistes de Shibari, donc de bondage japonais. En fait, le clip de The Ropes, le clip de la chanson titre qui va sortir le même jour que l'album, c'est du clip que sont tirés les visuels de l'album lui-même.
Ok, j'ai hâte de voir ça. Alors, vivement le 15 septembre. Tu l'as un petit peu souligné tout à l'heure à nos auditeurs quand j'ai présenté le groupe.
Ouais.
J'en ai fait mention. Vous avez partagé la scène avec des groupes extrêmement prestigieux puisque vous avez ouvert quand même pour Deep Purple, pour Anthrax, pour Disturbed, pour Papa Roach. Ouais. Ça, c'était avant le Covid. Hein. Maintenant, il est là, il est venu foutre un petit peu le bordel dans tout ça. Ouais. Du coup, il m'a quand même semblé voir que sur Facebook, il y avait une date de programmée pour vous, là, dans quelques temps.
Ouais, on a une date, on a une release party, on croise très très fort les doigts pour s'assurer, en espérant qu'elle arrivera pour le bon. On a une release party qui est prévue le 7 novembre avec deux autres groupes au CCO à Lyon.
D'accord.
À Villeurbanne pour être plus précis, avec Perseid, qui est un groupe de métal alternatif qu'on aime beaucoup, qui sont des potes à nous qui vont vraisemblablement ouvrir la soirée, et puis aussi avec un groupe alternatif culte qui s'appelle Stereotypical Working Class,
eh ouais,
qui a bossé avec des gens comme Mass Hysteria notamment, etc., etc. Et donc on prend la soirée comme une occasion de fêter la sortie des albums des trois groupes avec 45 minutes ou une heure de concert pour chacun d'entre eux.
Et vous avez d'autres plans en vue, ou pour l'instant c'est encore trop flou?
Non, alors pour le moment c'est très très flou. Je te cache pas que, étant atrocement perfectionniste, on a d'abord voulu faire en sorte que l'album soit prêt à sortir sur tous les fronts, y compris le clip et le soutien sur les réseaux sociaux de la meilleure manière possible. Ce qu'on va faire maintenant, on est un groupe totalement indépendant, on n'a pas de label, pas de manager, pas de tourneur, ni de quoi que ce soit. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va servir de l'album comme carte de visite, un peu comme on l'avait fait avec nos singles de 2018 pour obtenir les premières parties que tu citais tout à l'heure. Et puis pour obtenir des dates, parce que c'est vrai qu'on a hâte d'aller défendre les chansons sur scène, elles sont faites pour ça.
Et je pense qu'on a dû vous poser 40 000 fois la question, mais comment est-ce que vous avez été choisi pour assurer les premières parties de Deep Purple, d'Anthrax, etc. Et puis surtout, ça fait quoi de chauffer la salle pour des formations aussi mythiques, quoi, parce que Deep Purple c'est quand même les papas du hard rock, Anthrax c'est presque les papas du trash.
Ouais, écoute, on y allait au culot.
Ouais, mais ça paye comme quoi.
On s'est rendu compte assez vite quand on a commencé à avoir une idée assez claire de notre identité sonore et musicale. On s'est rendu compte assez vite que nos chansons, elles, bien sûr qu'elles passent dans des petites salles, mais elles passent encore mieux quand on les joue dans des grands espaces. C'est un côté un peu ample, un peu épique, un peu, tu vois. Il s'agit pas de dire qu'on est meilleur que les autres, pas d'avoir l'air prétentieux. Il y a des chansons qui sont plus intimistes, et puis il y a des trucs qui sont plus massifs et monolithiques. Nous, on est dans cette deuxième catégorie-là. Et donc, on s'est dit dès le début, plutôt que d'essayer d'enquiller un maximum de concerts dans des petites salles comme Headliner, ce qu'on a fait aussi, hein, c'était super, on a adoré. Mais pourquoi ne pas essayer de choper des premières parties de grands groupes déjà établis dans des grandes salles pour donner vraiment un maximum de chance à chacun des morceaux de s'exprimer, d'exprimer son potentiel de la meilleure façon possible. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris les trois morceaux qui étaient les plus aboutis à l'époque, dont on savait qu'ils allaient terminer sur l'album. On les a finis et clippés.
D'accord.
Et on s'en est servi comme carte de visite. On les a balancés à des tourneurs et des promoteurs. On a ciblé l'Europe de l'Est parce qu'on savait qu'il y avait la plupart des groupes internationaux qui tournent en Europe de l'Est. D'abord, ils prennent beaucoup de plaisir parce qu'il y a un public rock là-bas qui est absolument énorme. Et puis, surtout, ils ont tendance à prendre des premières parties ponctuelles plutôt que de signer avec une même première partie pour des rafales de 30 dates. Et donc, on s'est dit qu'on avait nos chances, puis ça a marché. Et les premiers à dire oui, ça a été Deep Purple, qui ont été absolument incroyables avec nous, qui ont été des vrais seigneurs et des vrais crèmes. Et puis, après, derrière, Anthrax, Papa Roach, on a Disturbed aussi, puis on a fait le festival Atlas en Ukraine, qui est un festival de rock assez mythique. Donc voilà, ça, on y est allé au plus haut, puis ça a bien marché.
Eh ben, tant mieux, en tout cas, félicitations, et j'espère que vous en aurez encore plein des premières parties aussi belles, et puis, maintenant aussi des têtes d'affiche, pour vous, parce qu'il va être temps avec ce nouvel album. Moi, je pense que, dans les mois à venir, on va beaucoup parler de vous, parce que c'est un album qui vraiment, c'est un de mes coups de cœur, là, de ce qui sort en ce moment. J'ai vraiment beaucoup aimé, et avant de vous retrouver, j'espère bientôt en live, nos auditeurs vont pouvoir découvrir tout ça dès le 15 septembre, ça s'appelle The Ropes. C'est un premier album qui va d'ailleurs sortir dans une très belle édition Digipack. C'est un bel objet. Et puis j'imagine qu'on va l'avoir aussi en format numérique sur les plateformes de streaming, téléchargement.
Alors, exactement, il va sortir à peu près partout chez tous les suspects habituels en téléchargement et en streaming. Avec une seule exception pour le moment qui moi me fait beaucoup de peine mais qui n'est que temporaire, qui est Cobuzz, parce que le distributeur en ligne avec qui on bosse ne bosse pas avec eux.
D'accord.
Mais on a bien l'intention de sortir une version haute résolution de l'album pour les gens qui veulent l'écouter, que ce soit en streaming ou en téléchargement sur Cobuzz aussi. Et puis on bosse sur un vinyle.
Ok, très bien.
Qu'on veut faire bien, parce qu'il y a malheureusement beaucoup de vinyles qui sortent aujourd'hui parce que l'objet est joli mais qui sont pressés n'importe comment, donc le son est dégueulasse. Et nous là on bosse sur le fait de sortir une édition vinyle comme il faut, qui mettra bien le son de ce qu'on a fait en valeur.
Eh ben, c'est parfait.
Ça, ce sera sans doute pour le début de l'année prochaine.
D'accord, on va suivre tout ça sur les réseaux sociaux. De toute façon, vous êtes présent sur Facebook, par exemple. Il y a un très beau site
sur
aussi.
Sur Facebook, sur Instagram, sur...
On vous trouve très facilement sur le net, je peux en témoigner. Merci encore, Michel, de nous avoir présenté Trank et ce premier album, The Ropes. Ce que je te propose, c'est qu'on en écoute un deuxième extrait pour conclure cette interview.
Écoute, volontiers.
Du coup, j'ai choisi Shining qui ouvre le disque. Est-ce que ça te va?
Ah, Ça me paraît parfait.
Eh ben, c'est super. Donc, c'est parti. Voici Shining du groupe Trank. Merci encore, Michel. Et puis, j'espère qu'on va bientôt se donner rendez-vous sur la route. Et puis, je te souhaite également une bonne continuation pour cette journée de promo, parce que je pense que tu as encore quelques interviews derrière.
Merci beaucoup à toi pour le soutien et pour ton écoute de l'album.
Et bon, c'était un plaisir en tout cas. À bientôt.
Merci, au revoir.
C'était Shining à l'instant du groupe Trank, un extrait de l'album qui va sortir le 15 septembre. Ce premier album s'appelle The Ropes. Si vous venez de nous rejoindre sur Bike FM, vous venez de manquer l'interview de Michel, qui en est le chanteur et puis qui s'occupe également de toutes les programmations. Bien heureusement, cette interview sera en ligne dans la rubrique podcast d'ici quelques jours, donc vous pourrez vous faire une petite séance de rattrapage. En tout cas, cet album qui sort le 15 septembre, moi j'ai vraiment adoré et je comprends pourquoi on les a choisis pour ouvrir pour Deep Purple, quoi. C'est un groupe qui a un fort potentiel, qui est absolument à suivre et c'est ce qu'on fera dans cette émission. Eh ben, le temps a filé à toute allure et il est déjà l'heure de notre rubrique finale, la rubrique Sortez Cover, qui chaque semaine termine l'émission sur un air de reprise. Alors, moi, cet été, entre le Covid et la canicule, j'avoue que j'ai passé pas mal de temps devant les plateformes de streaming à mater des films et des séries, dont la dernière saison en date d'American Horror Story, qui s'appelle 1984, ou 1984, hein, on va la faire simple, et qui est en fait un hommage aux slasher movies des années 80. Vendredi 13 en tête de liste, hein, soyons clairs. Une saison que j'ai trouvée très plaisante, ben, de par son ambiance, son univers, et puis aussi sa bande sonore, qui est très 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 orientée rock et hard rock. Et d'ailleurs, on trouve à de nombreuses reprises Billy Idol dans cette série. Alors, il y est fait référence plusieurs fois, et puis on l'entend également pas mal, et on entend notamment son tube Rebel Yell. Du coup, ben, j'ai eu envie d'aller voir s'il existait des covers sympas de cette chanson. Et puis en fait, eh ben, il y en a toute une collection. Donc le choix, ça a pas été simple, mais il a bien fallu trancher. Et finalement, bah, j'ai choisi de mettre à l'honneur la version d'un All-Star Band de Heavy américain qui s'appelle Adrenaline Mob. Alors d'abord parce que c'est la plus récente, et puis ensuite parce qu'il s'agit du dernier enregistrement du batteur AJ Perreault, qui est décédé très peu de temps après, en 2015. Mais revenons quelques instants à la version originale, hein, celle de Billy Idol. Donc Rebel Yell paraît d'abord en 45 tours le 24 octobre 1983 et puis sur l'album du même titre quelques temps plus tard, le 10 novembre. Sur ce deuxième album qui est Rebel Yell, le chanteur britannique qui est aujourd'hui devenu une icône du rock va réussir le mariage parfait entre le punk, le hard rock et la new wave, auquel il va quand même ajouter une petite touche glam qui vient parfaire le tout. Avec 2 millions d'exemplaires vendus à travers la planète, l'album Rebel Yell va être un gigantesque succès, tout comme la chanson du même nom qui va devenir un hit, hein, qui figure même aujourd'hui parmi les chansons rock incontournables des années 80. Et Rebel Yell est tellement ancré dans la culture populaire qu'on a pu l'entendre dans plein d'émissions, alors notamment dans une émission pour enfants qui s'appelle Sesame Street. On a même vu une version parodiée par le Muppet Show, et avant qu'elle soit utilisée dans la série American Horror Story, eh ben la chanson Rebel Yell avait été entendue dans un épisode d'une série qui s'appelle Cold Case, ça c'était au milieu des années 2000. Alors quant au nombre de reprises qu'a suscité ce morceau, il s'élève au moins à une bonne quarantaine. Rien que si on répertorie les revisites qui sont signées par des artistes rock ou metal, on en trouve pas loin d'une vingtaine. Alors ça va de Children of Bodom à Black Veil Bride, en passant par Dope, Dillinger Escape Plan, Drowning Pool, Eye the Volk ou encore Northern Kings. Donc maintenant, vous comprenez pourquoi j'ai longtemps hésité à choisir la version que j'allais diffuser aujourd'hui. Et donc, hein, c'est Adrenaline Mob et cette version parue en 2017 sur l'album We The People, dernier en date du groupe, qui va être diffusé aujourd'hui. Alors, Adrenaline Mob, c'est un groupe qui a vu le jour en 2011 du côté de New York. C'est ce qu'on appelle un super groupe. Et à ses débuts, il va comprendre, entre autres, le chanteur Russell Nalen du groupe Symphony X, le batteur Mike Portnoy qui vient tout juste à ce moment-là de quitter Dream Theater, et puis lui ensuite il va laisser ses baguettes donc à AJ Perreault qui fut également le batteur emblématique de Twisted Sister. C'est d'ailleurs en pleine tournée avec Adrenaline Mob que Perreault va être retrouvé sans vie. Hein, donc finalement de cet album qui s'appelle With The People, il aura le temps d'enregistrer que cette reprise de Billy Idol qui doit même dater de sessions un petit peu antérieures. Et Adrenaline Mob, dont les tournées semblent décidément maudites, puisque en juillet 2017, donc tout de suite après la sortie du disque, le groupe va être victime d'un terrible accident de route qui va coûter la vie cette fois-ci à son bassiste David Zablidowski. Donc je comprends pourquoi il tarde peut-être un peu à sortir un nouvel album et à repartir en tournée. Donc bah voilà, hein, vous savez à peu près tout sur ce tube des années 80 qui est Rebel Yell de Billy Idol et sur sa revisite dans un style heavy metal très moderne signé Adrenaline Mob. Et puis je le rappelle, hein, ce morceau on l'entend dans l'excellente saison de American Horror Story, la saison 1984 qui va débarquer d'ici quelques jours sur Netflix. Donc si vous aimez tout ce qui est film d'horreur slasher movie, allez voir cette saison, elle est vraiment très sympa. Et voilà, j'ai assez parlé pour aujourd'hui puisqu'on m'a dit que je parlais trop, donc je m'arrête là. Avant de l'écouter, ce morceau, je vais juste vous souhaiter un excellent week-end. On se donne rendez-vous bien sûr la semaine prochaine pour de nouvelles aventures métal. Salut à tous, voici Adrenaline Mob avec Rebel Yell.
answer.